Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Aujourd'hui, elles ne sont que théoriques. Demain, en 2025, elles seront de réels sanctuaires écologiques et sanitaires. Les zones à faible émission vont fleurir dans nos grandes villes et le gouvernement envisage des sanctions automatisées aux automobilistes ne respectant pas les critères. Est-ce juste, efficace, inapplicable? Vos questions, vos réactions au 39-21. Nous serons avec le maire de Reims, Arnaud Robinet. Il a parlé des ZFE avec le gouvernement aujourd'hui. Pierre Chasseret, de 40 millions d'automobilistes, sera également avec nous. Ce sera après le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir, chère Hélène.
Bonsoir, Raphaël. Bonsoir à tous. Dans ce journal également, le gouvernement veut mieux réglementer la chasse pour éviter les accidents. Parmi les pistes, un délit d'alcoolémie, comme au volant, ou encore l'interdiction le dimanche.
Et votre avis nous intéresse aussi sur la chasse. Vous êtes concerné pour ou contre plus d'encadrement? Appelez-nous au 39-21. On vous donne la parole après 19h45.
On parlera aussi dans ce journal de la pénurie des chauffeurs de bus. La RATP propose 450 euros de prime de présence. Des ados, fans de la puff, cette cigarette électronique jetable, et du nouveau Premier ministre britannique qui promet de réparer les erreurs de Liz Truss. Et puis évidemment, le match PSG-Maccabi Haïfa ce soir en Ligue des Champions. Nous serons devant le Parc des Princes.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël et bonsoir à tous. Un ressenti printanier voire estival avec ces températures qui explosent les records. Un jeudi et vendredi s'annoncent comme étant les journées les plus chaudes au niveau national. On fait un point à la fin du journal.
A tout à l'heure Marlène.
Europe 1.
Comment interdire les véhicules les plus polluants sur les routes? Un premier comité ministériel a fait plusieurs annonces aujourd'hui.
Oui, ça concerne ce qu'on appelle les ZFE, donc les zones à faible émission. 11 agglomérations, dont Lyon et Paris, sont déjà concernées. D'ici la fin 2024, ce seront toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, avec notamment des sanctions automatisées pour les véhicules trop polluants. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Barthélémy Philippe?
Alors Hélène, c'est très simple. Dès le 1er janvier 2025, tous les véhicules diesel produits avant 2011 ainsi que les véhicules essence produits avant 2006, reconnaissables à leur vignette critère 3, 4 et 5, auront l'interdiction de circuler dans les ZFE. S'ils le font quand même, les propriétaires des véhicules encourront une amende forfaitaire de classe 3 d'un montant de 68 euros. Ils ne pourront toutefois pas être sanctionnés plusieurs fois dans la même journée. En conférence de presse, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a précisé les modalités techniques envisagées pour ces contrôles.
Nous travaillons à la mise en place d'un contrôle-sanction automatisé sous forme de radar, qui sera effectif au deuxième semestre de l'année 2024. Ce système, par lecture des plaques d'immatriculation, permettra d'y intégrer des dérogations, puisqu'on aura la liste de ceux qui sont concernés. Ça peut valoir pour des véhicules d'urgence, ça peut valoir pour des personnes en situation de handicap.
Des aides existent pour aider les automobilistes à acheter un véhicule propre. Le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique d'un montant de 6 000 euros va être porté à 7 000 euros pour la moitié des Français les plus modestes. Autre exemple, la prime à la conversion qui peut aller jusqu'à 5 000 euros va être augmentée de 1 000 euros pour les habitants des ZFE.
Donc à retenir, Barthélémy, des radars anti-pollution à la fin 2024.
Arrow sur les chasseurs, plusieurs pistes de réflexion sont envisagées pour améliorer la sécurité.
Oui, encore un accident. Avant-hier, dans le Maine-et-Loire, des cyclistes ont reçu des plombs d'un chasseur qui visait une perdrix. La secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, en déplacement dans la Marne, réfléchit donc, par exemple, à un délit d'alcoolémie, comme pour les conducteurs ou encore à l'interdiction de la chasse le dimanche.
On va regarder toutes les propositions. Moi, il n'y a pas de sujet tabou. Mon objectif, c'est de mettre en place des décisions qui seront utiles pour protéger les promeneurs et sécuriser la chasse.
Vous pourriez interdire la chasse le dimanche?
Tout est sur la table. Je vois qu'il y a une multiplication des accidents. Il y a une attente très forte aussi pour qu'il y ait, on va dire, une meilleure cohabitation de l'espace naturel. Et donc, je crois que nous devons nous poser les bonnes questions.
On a donc entendu que la secrétaire d'État à l'écologie n'exclut pas d'interdire la chasse le dimanche. Ce n'est pas du goût du président de la Fédération des chasseurs de la Marne, Jackie Desbrosses.
Je ne suis pas favorable du tout. La chasse, la pratique de la chasse le dimanche, il y a toute une organisation qui peut être perturbée, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, qui pratiquent la chasse, qui travaillent. le lundi matin, ils sont au travail. Hein. Si vous voulez vous leur empêcher de chasser le dimanche, vous allez perturber le dispositif. On peut très bien cohabiter sur les territoires sans problème. Le territoire est suffisamment vaste pour être utilisé par tout le monde.
Le président de la Fédération des chasseurs de la Marne au micro européen de Clément Barguin. Ce sont pour l'instant des pistes. Les annonces sont attendues d'ici Noël.
Un tout autre sujet, très polémique également, la fin de vie.
Oui, on sait qu'une convention citoyenne va débattre sur le sujet pendant plusieurs mois, éventuellement pour faire changer la loi. Le tirage au sort du groupe de travail de 150 personnes est lancé, Geoffrey Branger.
Eh bien, l'Institut Harris Interactive est à partir d'aujourd'hui chargé de composer par tirage au sort un groupe de 150 citoyens représentatifs de la population, basés sur des critères comme le sexe, l'âge, la région d'origine ou encore la catégorie socio-professionnelle. Ce processus va durer plusieurs semaines et devrait se terminer début décembre. Une fois ce groupe constitué, il se réunira à 9 reprises entre décembre et mars pour débattre et répondre à une question. Le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changement devrait-il être introduit. Et c'est à partir de ces débats que le gouvernement décidera de changer ou non la loi Leonetti sur l'accompagnement médical de la fin de vie. Le comité d'éthique a d'ailleurs récemment jugé envisageable la mise en place d'une aide active à mourir avec des conditions très strictes. Par exemple, pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables. Cette convention citoyenne fonctionnera sur le même modèle que celle qui s'était réunie sur le climat en 2019 et 2020. Le gouvernement n'avait à ce moment-là retenu qu'une partie des recommandations.
Et cette question de la fin de vie, Emmanuel Macron en a parlé hier avec le pape François qui le recevait au Vatican. Selon les informations du Point, le président français a dit qu'il n'aimait pas le mot euthanasie, considérant que la mort, c'est un moment de vie, pas un acte technique. Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Santé, se défend d'avoir mal géré l'épidémie de Covid en France, des faits pour lesquels elle est d'ailleurs mise en examen. Elle affirme avoir alerté Emmanuel Macron et Édouard Philippe dès janvier 2020, mais n'avoir pas l'impression d'avoir été entendue.
De l'autre côté de la Manche, cette fois c'est fait. Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni.
Oui, il a été chargé par le roi Charles III de former un nouveau gouvernement. Avant de se mettre au travail, il s'est adressé aux Britanniques depuis le perron de Downing Street, Anaïs Cordoba.
Oui, Rishi Sunak, qui après avoir rendu hommage à Liz Truss, a reconnu que des erreurs avaient été commises par sa prédécesseur. « J'ai été choisi pour les réparer », a-t-il affirmé. Puis, il s'est engagé à redresser la situation économique.
« I will place... »
Je placerai la confiance et la stabilité économique au cœur du programme de mon gouvernement. Cela voudra dire qu'il y aura des décisions difficiles à prendre. Le gouvernement que je dirige ne laissera pas la prochaine génération régler une dette que nous avons été trop faibles pour payer nous-mêmes.
Avec ces mots, Rishi Sunak prépare les Britanniques à une période de rigueur budgétaire, voire d'austérité. Il s'est tout de même engagé à faire preuve de compassion, comme il l'avait fait en tant que ministre des Finances au moment du Covid, en débloquant des milliards de livres d'aide publique. Il a également promis d'unir le pays. Rishi Sunak, qui a affirmé ne pas être intimidé par cette série de défis, comme dans une volonté de se montrer à la fois honnête et rassurant.
Anaïs Cordoba, à Londres, pour Europe 1.
L'Italie fait, elle aussi, connaissance avec sa nouvelle chef du gouvernement, Giorgia Meloni.
Oui, un mois jour pour jour après la victoire de son parti ultra-conservateur Fratelli d'Italia aux élections, elle a prononcé tout à l'heure son discours de politique générale devant les députés et elle a tenu à dire qu'elle n'avait rien à voir avec le fascisme.
Je n'ai jamais eu de sympathie ni de proximité vis-à-vis des régimes antidémocratiques, pour aucun régime, fascisme compris. J'ai toujours considéré les lois raciales prises par Mussolini comme le moment le plus honteux de notre histoire. L'Italie fait pleinement partie de l'Europe et du monde occidental. Nous sommes l'un des fondateurs de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique. Nous faisons partie du G7, nous ne souhaitons pas freiner ou saboter l'intégration européenne. Nous souhaitons la rendre plus efficace pour répondre aux crises et nous ne pensons pas que l'Union européenne soit un lieu réservé aux élites. Pour nous, il s'agit de la grande maison du peuple européen.
Voilà la nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni. Un vote de confiance doit se tenir ce soir à la Chambre des députés, demain au Sénat, mais elle est sûre de l'emporter puisque sa coalition a la majorité absolue dans les deux chambres.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Une prime de 450 € pour les chauffeurs de bus de la RATP, à condition qu'ils soient fidèles au poste. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
La suite du journal d'Hélène Zélani. Les usagers de la RATP s'en sont bien rendus compte depuis la rentrée. Il manque de nombreux chauffeurs de bus.
Conséquence logique, des temps d'attente rallongés et une colère grandissante des voyageurs. Alors pour y remédier, la RATP propose aux chauffeurs depuis octobre et jusqu'à la fin de l'année une prime de présence pour lutter contre l'absentéisme. Inès Zegloul.
Oui, dans le détail, 100 euros de prime pour le premier mois sans absence, 150 pour le second et enfin 200 euros pour le troisième. Au total, 450 euros de prime cumulée. La RATP indique vouloir saluer l'engagement et l'investissement des conducteurs. Mais côté syndicat, on dénonce une mesure discriminante. Arnaud Monnet du syndicat La Base RATP.
Au regard des critères qui sont mis dans cette note, elle empêche en fait notamment ceux qui sont en accident de travail, en grève, en agression, en soins enfants, percevoir cette prime, c'est totalement discriminatoire et ça les met de côté. La direction, on essaye de mettre des pansements sur une jambe de bois. C'est une prime de la honte.
Et pour Abdel, responsable syndical Force Ouvrière, cette prime temporaire ne résoudra pas le manque d'effectifs et les problèmes de recrutement de la société.
Eux, ils se disent, on se laisse 3 mois pour faire un maximum d'embauches, mais embaucher quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va rester.
Les gens, s'ils ne retrouvent plus en vie de famille, s'ils ne retrouvent plus en salaire, parce qu'avant, il y avait des primes qui ont disparu. Et donc, les gens démissionnent en pagaille. La RATP, elle n'arrive pas à fournir l'offre de transport parce que les gens arrêtent tout simplement. Ils vont chercher un boulot ailleurs.
Selon les représentants de Travailleurs Seule Solution, une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail.
Inès Zegloul.
Si vous avez des ados chez vous ou autour de vous, vous avez sûrement dû entendre parler de la puff, cette cigarette électronique jetable au goût sucré.
Vendue avec ou sans nicotine, elle fait un carton devant les collèges et les lycées, alors qu'en théorie, elle est interdite de vente aux mineurs. Près de 3 ados sur 10 auraient d'ailleurs commencé leur initiation à la nicotine avec cette fameuse puff. Le collectif d'associations Alliance contre le tabac demande carrément son interdiction immédiate. Reportage Johan Tritz.
Raisins glacés, pastèques fraises ou encore fruits du dragon, voilà tous les goûts que l'on peut retrouver dans ce bureau de tabac qui fait la part belle aux puffs toujours très colorés. Disposés sur 5 étagères derrière le comptoir, impossible de les rater car aujourd'hui pour le gérant Cyril, c'est devenu une part de marché très importante.
En un an, ça représente 40% de mes ventes de vapotage.
Et les consommateurs sont surtout jeunes. Marco et Théo, 19 et 20 ans, l'ont testé comme la plupart de leurs collègues de classe.
On a l'impression que c'est un jouet au début. Ça fait un peu de lumière, tout ça, puis même c'est pratique, c'est petit et tout.
S'ils ont l'âge légal pour consommer, ce n'est pas le cas de tout le monde. Marco et Théo croisent souvent des adolescents en possession de cette fameuse puff.
Ah ouais, 15 ans, ouais, bien sûr.
Il y a beaucoup de jeunes filles surtout qui fument,
ils
fument
ça. C'est un petit produit qui n'a pas forcément beaucoup de nicotine. En vrai, ils se laissent plus tenter. Puis en vrai, ils disent que c'est jetable, ça ne va pas forcément tenir ou quoi.
C'est facile parce que ça dure une soirée et les gens qui ne fument pas, qui ne veulent pas acheter de paquet de clopes, souvent ils peuvent se mettre à acheter une puff.
Pourtant, la vente est interdite aux moins de 18 ans, mais selon Jade, il n'est pas très difficile pour les mineurs comme elle de s'en procurer.
Ouais, mais bon, déjà pour les cigarettes de base, je ne vérifie pas trop.
Aujourd'hui, plus de 10% des mineurs auraient déjà consommé ces cigarettes électriques jetables.
Johan Tritz.
Un match de foot à haut risque ce soir au Parc des Princes. Le PSG reçoit le Maccabi Haïfa.
Rencontre de Ligue des Champions à l'aller, les Parisiens l'avaient emporté 3-1. Ce soir, en cas de victoire, ils valideront leur ticket pour les 8e. Cyril de la Morinerie, vous êtes devant le Parc des Princes. Le match commence dans moins de 2 heures, mais avec quand même pas mal d'inquiétudes sur la sécurité.
Exactement, là où je me trouve, devant le Parc des Princes, c'est plutôt calme. Les supporters du PSG attendent patiemment le bus des joueurs derrière des barrières. En revanche, c'est plus mouvementé du côté de la place de la Concorde. Un rassemblement surprise de supporters israéliens a été organisé. Un millier de fans du Maccabi Haïfa ont allumé des fumigènes. Ils ont commencé à défiler sur les Champs-Élysées. La police conduit désormais ses fans vers le métro, direction le parcage visiteur ici au Parc des Princes, qui a été réduit à 1500 places pour des raisons de sécurité, pour éviter des riches entre fans parisiens dont certains soutiennent la cause palestinienne et donc des supporters d'Haïfa. Et le PSG d'ailleurs a pris un certain nombre de mesures. Il est par exemple interdit d'arborer des signes distinctifs ici au Parc des Princes, à savoir un maillot, une écharpe ou un accessoire du Maccabi Haïfa, ainsi que des drapeaux palestiniens ou israéliens, avec un objectif, c'est d'éviter un drame comme en 2006 lors de la venue de la Hapoël Tel Aviv, où un supporter parisien avait perdu la vie. Quant au match Il y a bien un match ce soir à suivre sur Europe 1. Et bien les Parisiens sont en quête de victoire qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et cela avant même le dernier déplacement à Turin la semaine prochaine. Avec les retours de Ramos et de Neymar, le Paris Saint-Germain a toutes les armes pour se qualifier.
Cyril de la Morinerie devant le Parc des Princes. Vous l'avez dit, coup d'envoi à 21h. Et c'est bien sûr à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Les marchés financiers avec Claire Lemaître de Boursier.com. Paris grimpe de près de 2% ce soir.
Oui, une très belle hausse, plus 1,9% pour le CAC 40 à 6250 points. Un marché qui anticipe, comme hier, des hausses de taux moins agressives des banques centrales, notamment aux États-Unis. Donc ça monte partout en Europe, sauf à Londres, qui est stable, freinée par l'envolée de la livre sterling après l'arrivée du nouveau Premier ministre. Les autres marchés sont en hausse, plus 0,8 pour Francfort, plus 1,4 pour Milan, plus 1,9 pour Amsterdam, plus 1,9% aussi donc ce soir pour le CAC 40.
Merci Claire Lemaître.
Et merci à vous Hélène Zellani, on vous retrouve à 20h pour un nouveau point sur l'actualité, la météo. C'est une quête qui dure depuis le 21 septembre dernier. On cherche toujours l'automne, Marlène Duret.
C'est vrai que les journées raccourcissent, les arbres perdent leurs feuilles, se teintent de jolies couleurs soitaillantes, mais au niveau des températures, c'est une autre chanson. D'ailleurs, elles repartent à la hausse, ces températures, demain. Les maximales seront comprises le plus souvent entre 20 et 24 degrés, donc sur la moitié nord, avec 23 à Paris. Ce sera 4 degrés de plus par rapport à aujourd'hui. Et puis sur la moitié sud, allez, il fera 23 à 27 en général, avec des pointes à 28 dans le sud-ouest et dans l'intérieur de la Provence. Et ce n'est pas terminé, puisqu'on a une masse d'air encore plus chaud qui s'apprête à gagner le pays jeudi et vendredi. Des températures aux allures estivales avec probablement de nouveaux records de chaleur à la clé pour une troisième décade d'octobre. Comme à Bordeaux, on pourrait atteindre 29 degrés jeudi, c'est ça. Et Clermont-Ferrand qui pourrait afficher 30 degrés vendredi après un 25 octobre. C'est jamais arrivé de dépasser les 27-28. Donc voilà, Météo France prévoit même des températures au-delà de 30 degrés vendredi dans le sud-ouest.
Record en vue pour cet automne et pour les couleurs du ciel demain, Marlène.
Alors ça va être assez simple, une dominante de bleu sur la moitié nord une fois le passage d'averse ou de petites pluies passées, parce qu'il va y en avoir cette nuit, elles vont circuler. Petites averses résiduelles près des frontières du nord en matinée, et le soleil va s'imposer ensuite. Et puis sur la moitié sud, on est plus sur un ciel un petit peu laiteux mais lumineux, avec une averse en Auvergne et puis un peu plus de nuages dans le Languedoc-Roussillon. Ce sont les fameuses entrées maritimes.
C'est bien noté. Merci Marlène Duret. Prochain point météo à 23h sur Europe 1. Dans quelques instants, nous revenons sur notre grand dossier ce soir. Les ZFE, les zones à faible émission. Bientôt, ce seront des forteresses imprenables. Du moins, si vous vous y rendez avec votre véhicule polluant, vous allez devoir payer une amende. Ça sera à partir de 2025. Nous en parlons dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé vous informe sur Europe 1. Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Notre premier dossier ce soir consacré aux ZFE, les zones à faible émission, ou comment nos grandes agglomérations devront tout bientôt chasser de leur centre-ville les véhicules les plus polluants, les fameux critères 5, 4, 3, grosso modo, les vieilles voitures thermiques. La loi climat et résilience prévoit leur mise en place dès 2025 dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Autant vous dire, c'est pour demain. Et le gouvernement penche depuis aujourd'hui pour des sanctions automatisées pour les contrevenants avec, on l'a entendu pendant le journal, des radars anti-pollution. On entre clairement dans une phase d'accélération. Nous sommes avec le maire de Reims, Arnaud Robinet, maire Horizon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous sommes également avec Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Arnaud Robinet, je me tourne vers vous pour commencer, parce qu'à Reims, il y a une zone à faible émission depuis septembre 2021. Alors tout ça n'est que théorique. Rien, absolument rien n'empêche physiquement un vieux véhicule diesel d'entrer dans le centre-ville de Reims, qui est magnifique d'ailleurs. Est-ce que ça fonctionne vraiment, la ZFE ?
Alors, oui, à Reims, nous l'avons mis en place depuis 2021. C'est un choix, c'est une mise en œuvre anticipée afin d'éviter, je veux dire, une mise en œuvre brutale et non progressive. Alors, nous, ce qui nous permet bien évidemment de faire plusieurs dérogations. Je rappelle qu'à Reims, les critères 2 diesel n'auront aucune restriction de circulation sur notre zone. Les véhicules à essence avec boîtier bioéthanol non plus, ils peuvent circuler. Des dérogations pour les véhicules de collection, pour les personnes ayant des pathologies ou handicaps, et bien sûr pour les entreprises. Mais au-delà de ça, bien évidemment, nous sommes dans une phase de pédagogie. Moi, il est hors de question de verbaliser aujourd'hui, surtout dans la période dans laquelle nous traversons, de verbaliser les automobilistes. C'est faire de la pédagogie. Parallèlement, nous mettons en place des mesures d'accompagnement avec le Grand Reims, la ville de Reims, cumulable avec celle de l'État, pour un changement de véhicule qui n'est pas forcément électrique, mais pour des véhicules qui soient plus propres. J'ai conscience d'une chose, en tout cas, c'est que ce sujet, c'est de la nitroglycérine au moment où on se parle. Parce que c'est vrai que c'est utilisé pour monter les gens les uns contre les autres, les ruraux contre les citadins, les plus modestes contre les autres, et les voitures contre les autres moyens de transport. Mais au-delà de ça, je dis qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens collectivités de mettre en place ou d'appliquer ces zones LFE comme l'État le souhaiterait. J'ai participé à cette réunion ministérielle ce matin. On nous a parlé, bien sûr, de la verbalisation. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement la bonne solution. Il faut accompagner nos concitoyens. Et moi, je l'ai dit ce matin au ministre, nous ferons un moratoire à Reims. Avec Atmo, nous mesurons la qualité de l'air sur la zone, qui est une petite zone de 3 km² à Reims. Et si la qualité de l'air s'améliore, les critères 3 ne seront pas concernés. Nous repousserons la mesure.
Alors, Arnaud Robinet, vous avez participé à la réunion, à ce comité ministériel aujourd'hui avec les ministres Christophe Béchu et Clément Beaune, respectivement ministre de la Transition écologique et ministre délégué au transport. Quand vous avez entendu donc cette piste hein, qui devient de plus en plus claire, hein, janvier 2025, c'est vraiment tout bientôt. Donc, ces amendes de catégorie 3, 68 euros, ça vise à dissuader, à inciter. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à Reims des contrôles ?
Non, il n'y a pas le contrôle. Moi, j'ai demandé à la police municipale alors, il peut y avoir des contrôles pédagogiques, mais en tout cas, pas de verbalisation. Parce que vous savez, pour inciter nos concitoyens à se déplacer autrement qu'avec leur voiture, il faut déjà des transports en commun qui soient accueillants et qui permettent à nos concitoyens de se déplacer. Il faut pouvoir également proposer à nos concitoyens des véhicules. Et aujourd'hui, on sait que pour un achat de véhicule, c'est très compliqué en termes de temps. Aujourd'hui, donc il y a d'autres moyens pour inciter, pour faire de la pédagogie plutôt que de la verbalisation à outrance. En tout cas, c'est pas dans la philosophie rémoise.
Alors, Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, est avec nous ce soir. Vous avez entendu le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui parle d'une nitroglycérine, une bombe à retardement social, en fait. C'est un peu votre avis, à vous aussi.
La bombe à retardement social, la zone à forte exclusion, voilà des expressions employées par l'association 40 millions d'automobilistes. Déjà, M. Robinet, bonjour. Très heureux de vous avoir et je sais très bien qu'on va se rencontrer très bientôt puisque vous avez accepté notre demande de rendez-vous. Donc rien que pour ça, merci. Deuxième merci, votre ville est superbe, vraiment, parce que j'y étais il y a 2 semaines. Donc pour vous dire vrai, avec cette demande de rendez-vous qui n'avait pas abouti, mais parce que votre agenda a été bloqué, mais j'ai bien eu votre assistante et je sais que vous allez rencontrer l'association 40 millions d'automobilistes, et donc Bibi, pour faire simple. Le problème, c'est que je suis venu dans votre ville et que j'ai constaté, déjà, ce qu'on constate tous, bien évidemment, il n'y a pas de verbalisation. Alors, à titre personnel, je le regrette, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, à la première verbalisation, 40 millions d'automobilistes se constituera partie civile. C'est une évidence, parce que c'est une vraie entrave à la liberté de circulation et que ça, on ne laissera pas faire un tel acte qui va mettre à la porte des agglomérations la moitié des Français. Ensuite, monsieur le maire, pour tout vous dire, je ne me suis pas limité à regarder la jolie ville de Reims, je suis parti un petit peu tout autour, sur la route d'Épernay, puis je suis parti voir les élus des communes alentours, parce que Reims est une grande agglomération, comme toutes les agglomérations françaises qui sont touchées. Et en fait, je m'aperçois d'une réalité, c'est que pour tous ceux qui habitent en dehors de la ville et qui ont besoin de venir dans votre ville, se pose tout un tas de problématiques. Tiens, je vais vous parler de Tinqueux, où vous pouvez avoir un couple avec 2 voitures, critère 3, qui se retrouve aujourd'hui dans l'obligation parce que le mari est contrôleur aérien, il travaille de nuit. Comment il fait pour y aller ? Il faut qu'il change 2 voitures. Est-ce que vous allez lui avancer 60 000 euros ? Ou est-ce que, comme cette mesure mise en place ridicule, employons les mots, Monsieur Robinet, la mesure qui est mise en place par la communauté, par l'agglomération du Grand Reims, on vous propose, si vous rendez votre voiture, on vous offre un vélo cargo. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était une blague. Et c'est pas une blague
caricaturaire.
Non, c'est une réalité.
Alors, il y a aussi des aides de l'État, il y a le bonus écologique. Alors, Arnaud Robinet, je vais juste préciser.
C'est vrai ?
Oui, non, mais premièrement...
Arnaud Robinet, le maire de Reims vous répond.
Oui, non, premièrement, l'exemple que donne Monsieur le Président sur la question du couple de Tinqueux, je rappelle que la zone à faible émission de Reims concerne qu'une petite partie de la ville, ce n'est pas l'agglomération, c'est uniquement le centre-ville.
Et l'autoroute.
Y a
Et l'autoroute, alors c'est une particularité rémoise d'ailleurs, parce qu'on a encore une des seules villes où l'autoroute traverse la ville. Mais il y a bien sûr d'autres parcours pour pouvoir accéder de Tinqueux au centre de navigation aérienne sans difficulté et sans passer par la zone à faible émission.
Ça se voit que ce n'est pas vous qui le faites, monsieur.
Sur l'aide du Grand Reims, celle-ci ne se limite pas, comme vous laissez entendre, uniquement à un changement avec un vélo cargo, puisqu'il y a des aides pécuniaires, financières, pour accompagner au changement de véhicule. C'est cumulable avec les aides de la ville de Reims et celles de l'État. Mais je conçois bien évidemment que les aides de l'État ne sont pas suffisantes, même si le président Macron a annoncé une augmentation de l'aide de 5 000 à 7 000 euros. Cela n'est pas forcément suffisant pour accompagner un grand nombre de locaux.
Le fameux bonus écologique. Monsieur le maire, Arnaud Robinet, on vous reprend après une courte pause et on revient tout de suite sur Europe 1. On écoutera également Benat, un auditeur qui veut nous donner son avis. Il roule au diesel. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, notre grand dossier ce soir consacré aux zones à faible émission. Elles sont imposées dès le 1er janvier 2025 aux grandes villes, celles de plus de 150 000 habitants. Nous en parlons avec Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims, où il y a déjà une ZFE depuis septembre 2021. Nous sommes également avec Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Beaucoup d'automobilistes en France. L'un d'entre eux est avec nous, Benat. Il a 51 ans, habite les Hauts-de-Seine. Bonsoir Benat. Alors vous êtes un peu déboussolé, c'est-à-dire qu'on vous a forcé il y a quelques années à choisir le diesel plutôt que l'essence. Et aujourd'hui on vous dit, il faut plus de diesel, si possible plus d'essence, et acheter une voiture électrique.
Alors, pour être tout à fait... Bonsoir, Raphaël Delvolvé. Pour être tout à fait précis, non, j'ai un véhicule essence depuis un certain nombre d'années, mais cependant, j'ai aussi un deuxième véhicule qui est en diesel. Autrement dit, oui, certes, on peut être un peu déconcerté de toutes les façons par les changements, mais on voit bien que de toutes les façons, on a quand même une problématique environnementale qu'il faut quand même prendre en ligne de compte. Moi, j'ai des enfants et je constate, je n'étais pas trop sensibilisé à cette problématique-là, mais moi je constate que en fait mes enfants sont relativement sensibilisés à ce type de problématique. Bon, il est vrai que je suis un peu un cas particulier, parce que vous savez, quand vous habitez en région parisienne, c'est pas la même chose, j'imagine, que lorsque vous êtes un peu en province, où peut-être que les problèmes sont un peu différents.
On bénéficie d'un réseau de transport bien plus poussé.
Voilà, c'est-à-dire que moi, écoutez, j'habite dans les Hauts-de-Seine, je suis à côté d'une grande station de RER, métro, bus, donc j'ai pas cette problématique-là. D'autant plus que maintenant, ça fait très longtemps que je reprends les transports en commun, parce que Paris est devenu impraticable en voiture. Donc, et même en scooter, c'est très dangereux. Donc, quoi qu'il en soit, j'avoue que je ne suis pas forcément le bon exemple par rapport au président de l'association des 40 millions de...
Voilà, si, bien sûr, vous êtes le bon exemple.
Si j'ai bien compris, Benat, ce qui vous dérange, c'est surtout le calendrier, en fait. On va trop vite avec cette histoire de ZFE.
Alors, je pense que la problématique, et d'ailleurs, je salue le maire de Reims, Arnaud Robinet, parce qu'en fait, moi, je pense que la problématique, c'est qu'on n'a pas, entre guillemets, est-ce qu'on peut exprimer cette façon, si on peut s'exprimer de cette façon-là, c'est-à-dire évangéliser un petit peu la chose, c'est-à-dire, en fait, faire comprendre que je pense que 2025, c'est trop court, on a eu 2 années de Covid, c'est très compliqué, je pense, pour beaucoup de personnes. Moi, je pense que dans la région parisienne, personne n'est au courant, ou très peu de monde, de ce qu'on appelle les ZFE. Donc, c'est le Grand Paris qui gère, pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas. Je pense que personne n'est au courant qu'en 2025, on n'aura plus vraiment, véritablement, le droit de circuler pour une certaine catégorie de véhicules. Je pense qu'il faut... Mon humble avis, c'est qu'il faudrait déjà reculer de 2 ans, puisqu'on a quand même eu quasiment 2 ans un peu d'inactivité à cause du Covid, qu'il faudrait peut-être reculer déjà cette mesure de mise en œuvre de 2 ans minimum, et qu'on puisse éventuellement peut-être construire quelque chose qui soit efficient, et de manière à ce que mettre en place les fameux véhicules à 100 euros pour les véhicules électriques.
Posons la question à Arnaud Robinet, Benat, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on se précipite pas un peu? C'est vrai que le moment est peut-être mal choisi. Hein, le marché de l'énergie connaît quelques turbulences. Hein, les prix explosent. Est-ce que repousser le calendrier de 2 ans, ça a été évoqué pendant la réunion ministérielle aujourd'hui, monsieur le maire?
En tout cas, ça n'a pas été, c'était insinué par certains élus, mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. Alors bien évidemment, et je rejoins ce que disait votre auditeur sur la question de la qualité de l'air, moi je ne veux pas opposer le porte-monnaie à la santé, je rappelle juste que la pollution de l'air, c'est plus de 40 000 morts par an. Donc il y a
c'est
bien
faux.
Sûr des mesures à prendre.
C'est un chiffre de santé publique France, c'est faux. Voilà, que les auditeurs comprennent bien, les ZFE, ce n'est pas pour lutter contre les émissions de CO2, mais de NO2, le dioxyde de carbone, c'est dioxyde d'azote, pardon, pour qu'on ait une meilleure qualité de l'air. Voilà.
Mais par contre, votre auditeur a totalement raison, c'est sur la question de l'information et de la communication. Et d'ailleurs, nous avons demandé au gouvernement et au ministre Béchu d'accélérer dès 2023 une information, une communication envers l'ensemble de la population française, parce que on a tendance aussi à penser que les diesels vont être totalement bannis et qu'on va imposer de circuler en voiture électrique, ce qui est totalement faux. Je rappelle qu'à Reims, les critères de diesel n'auront aucune restriction de circulation sur notre ZFE. C'est juste une incitation à avoir des véhicules plus propres par rapport aux vieux véhicules qui sont les critères 5, les critères 4 et voire les critères 3. Mais je le dis, il faut aussi le faire de manière pragmatique. Et moi, ce que j'ai dit au ministre Béchu, c'est que nous travaillons avec Atmo pour mesurer et évaluer la qualité de l'air. Si la qualité de l'air s'améliore sur Reims, et ce qui est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années, je reculerai, je dirais, cette restriction pour les critères 3. Il faut être aussi pragmatique et laisser le temps à nos concitoyens de pouvoir changer de véhicule dans le temps. Et c'est vrai que les deux années de Covid ont été un peu une coupure temporelle dans cette période. Et de ce fait, il aurait été aussi souhaitable que le gouvernement donne un peu plus de lest aux collectivités. Parce que derrière, vous savez, c'est les collectivités qui ont en charge de la mise en place. C'est les collectivités qui se font taper sur les doigts par nos concitoyens. C'est les collectivités qui doivent donner des explications et de la communication. Donc laissons-nous le temps, bien évidemment, de communiquer auprès de nos concitoyens et surtout de les accompagner. Et donc, il faut que l'État nous aide sur le développement des transports en commun dans nos agglomérations et dans nos villes. Il faut des mesures incitatives. Il y a plein de choses à mettre en place et pas uniquement la verbalisation à outrance.
Pierre Chasseret, vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre de Santé publique France, 40 000 morts par an.
C'est pas ce que dit Santé publique d'azote. France. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas la réalité. Ce
Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes.
Vous pouvez vérifier. Le problème, c'est qu'à force d'entendre des vérités qui sont assénées, on pense que c'est la vérité. C'est faux. Ce que dit Santé publique France, c'est qu'il y aurait 40 000 décès anticipés. Toute la valeur est dans le mot anticipé. Il faut comprendre ce que ça veut dire anticiper. Si on n'explique pas le mot anticipation dans les décès, on ne va pas comprendre, on va penser que c'est à cause de la qualité de l'air qu'on est. Non, c'est pas ça.
Alors, qu'est-ce qui pollue l'air? Ce sont des véhicules diesel ou des véhicules mal entretenus?
Non, pas que. Il n'y a pas que les véhicules. Les véhicules font partie de la pollution ambiante, évidemment, mais les véhicules particuliers sont une partie de la pollution des transports. Et souvent, pareil, on donne la responsabilité des voitures des particuliers toute la responsabilité de la pollution des transports, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai entendu, c'est la qualité de l'air s'améliore à Reims. Oui, monsieur le maire, comme partout en France. Absolument partout. Et pas depuis quelques années. Depuis 1990. Je vais vous citer une phrase d'un rapport du ministère de l'Écologie et des Transports. La qualité de l'air n'a jamais cessé de s'améliorer partout, en ville, en dehors des villes, depuis 1990. On n'a pas attendu les ZFE. Ça, c'est le premier point.
Non, mais attendez.
Ensuite, non, mais c'est une réalité. Monsieur le maire, je vous ai écouté, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Alors, on écoute Pierre Chasseret, monsieur le maire. Arnaud Robinet, vous répondrez après. Pierre Chasseret.
C'est une réalité. Malheureusement, je travaille mes dossiers. Ça pose problème, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est le premier point. En dehors de ça, moi, la vraie question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, monsieur le maire, vous avez la moitié des Français qui ne savent absolument pas de quelle vignette critère ils dépendent.
Alors,
ça,
51% selon un récent sondage Opinionway.
Voilà, donc
la moitié des automobilistes, ça fait à peu près 20 millions d'automobilistes. Okay.
Vous avez la moitié des automobilistes qui disent « si je suis concerné, je vais rouler quand même ». Donc super, ça fait une loi encore quasi inapplicable. Troisième point, on va mettre en place des verbalisations. Ça veut dire, très concrètement, attention à ceux qui m'écoutent et qui se disent « ah ben il est gentil, il y a 40 millions d'automobilistes, mais moi je veux bien, j'ai la bonne voiture ». Attention, les jeunes. Vos enfants, vos petits-enfants, ils n'auront pas les moyens d'acheter une Tesla à 40 000 euros. Donc, quand il va falloir se déplacer, regardez les prix sur le marché de l'occasion d'une Vignac Critère 2. Ce n'est pas les prix qu'un jeune met pour acheter un véhicule d'occasion, son premier véhicule. Et pourtant, quand on va à Pôle emploi chercher un emploi, les deux premières questions, c'est est-ce que vous avez le permis? Deuxième question, est-ce que vous avez une voiture? Donc, je veux bien, mais ça va devenir un véritable luxe, la mobilité. Le dernier point, c'est faire croire à tous les Français qu'il y aura une ligne de métro sous leurs pieds. Ce n'est pas vrai. Dernier point, ça ne concerne pas que Reims, attention à ceux qui sont en dehors, ça ne concerne pas que Paris non plus, ça concerne 45 ou 47, selon comment on compte, métropole actuellement, métropole de plus de 150 000 habitants, pas ville, métropole. Ça veut dire que vous avez Toulouse, Reims, Dijon, Strasbourg, Rouen, Reims, c'est sans fin, Le Mans, Nantes, Angers. C'est terrible. Ça veut dire que dans toutes ces villes, votre véhicule ne vaudra plus rien. Et vous avez, et c'est là que je voudrais en finir, parce que la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut plus ou moins de voitures en ville. On est tous d'accord pour dire avec moins de voitures en ville, ça serait plus agréable pour tout le monde. C'est une réalité. Mais la vraie question, monsieur le maire, qui se pose, et cette question, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a apporté une réponse qui puisse me satisfaire. Est-ce qu'il est juste et normal qu'en France, on interdise la circulation de la moitié des automobilistes? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il vous paraît normal, monsieur le maire, des automobilistes qui ont bénéficié d'un bonus écologique pour l'achat d'un véhicule avant 2011, on interdise aujourd'hui la circulation sur un principe écologique.
Moi, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Arnaud Robinet vous répond, Pierre Chasseret. Monsieur le maire, si on peut faire court, comme ça, on va pouvoir entendre Alexandre qui nous attend au standard. Arnaud Robinet.
Oui, bien sûr. Non, alors, sur la qualité de l'air, bien évidemment que celle-ci s'améliore. Bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, et c'est dû aussi au changement.
L'efficacité des ZFE n'est pas encore prouvée.
Bien, celle-ci n'est pas encore prouvée, mais force est de constater, c'est que au niveau des mesures, notamment du dioxyde d'azote, nous avons des pics et des concentrations de dioxyde d'azote qui sont au-delà des normes acceptables. Derrière, qu'est-ce que l'on fait? Et donc, moi, j'entends ce que dit le porte-parole de 40 millions d'automobilistes. Il est un peu dans la caricature. Quand il nous dit notamment qu'on interdit à plus de la moitié d'automobilistes de circuler, ce qui est totalement faux.
48%.
48%, on n'interdit pas 48%.
Vous avez raison, c'est pas la moitié, c'est 48%, mais bon, non, on n'est pas loin quand même.
On n'interdit pas de circuler, surtout dans des ZFE qui sont limités sur un secteur 3 km² qui concerne un centre-ville. Heureusement que dans les centres-villes, on ne vient pas qu'en voiture. On doit donner la possibilité à ses concitoyens de pouvoir se garer, de prendre les transports en commun ou d'utiliser des mobilités douces. C'est l'objectif, ZFE ou pas ZFE d'ailleurs, premièrement. Deuxièmement, vous avez posé une question, vous pouvez me la rappeler parce que vous avez dit tellement de choses que j'ai du mal à...
Non, j'ai juste répondu aux arguments. Je vous ai demandé en fait si vous trouviez normal que quelqu'un qui a bénéficié d'un bonus écologique pour acheter un véhicule soit interdit de circuler pour des raisons écologiques. Mais maintenant, si vous arrivez à me répondre à cette question, franchement...
Aujourd'hui, nous, à Reims, de façon pragmatique... Et pour faire taire toutes les rumeurs ou les fausses informations, quand j'entends qu'on est obligé de circuler uniquement en voiture électrique, que les diesels sont bannis, que les essences sont bannies, c'est totalement faux, je le répète, puisque les diesels pourront continuer à circuler même dans la ZFE si elles sont critère 2, comme les voitures essence d'ailleurs. Donc on ne bannit pas l'ensemble des voitures. D'ailleurs, aujourd'hui, les critères 4...
C'est pas la réponse à ma question, hein.
Représente très peu d'ailleurs de véhicules, puisqu'on le voit même nous sur les demandes d'aide et d'accompagnement, celles-ci ne sont pas à la hauteur des budgets qui ont été prévus, parce qu'en fait, ça concerne très peu de personnes aujourd'hui sur la ville de Reims. Donc, moi je dis attention, n'arrêtons d'opposer les uns aux autres, le porte-monnaie face à la santé, les ruraux face aux citadins. Aujourd'hui, il faut être pragmatique. Il y a une problématique de qualité de l'air, et l'État français a été condamné à plusieurs reprises pour non-action. Donc, il y a une vraie difficulté, il y a une problématique de qualité de l'air dans les grandes agglomérations, et notamment dans les 12 ou 13 agglomérations, les premières agglomérations françaises. Prenons des mesures pragmatiques d'accompagnement envers nos concitoyens. Prenons le temps pour le faire.
Et donnons justement la parole à nos concitoyens. Alexandre, sûr, 42 ans, est au standard avec nous. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir.
Vous y voyez, vous, dans ces zones à faible émission, un cercle vicieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors moi je suis récemment parisien et je m'aperçois que en fait ça va contribuer à une certaine hyper-gentrification qui est déjà en place dans les grandes agglomérations françaises. Ouais. Et surtout à Paris qui concentre environ un tiers de la population et de l'activité économique de ce pays. Et c'est pour ça notamment que les transports en commun à Paris sont saturés et sont, défectueux. C'est aussi parce que Paris, c'est une des villes les plus denses du monde. Et je pense que la ZFE devrait s'inscrire dans un programme plus global, plus entier.
Plus social, si je comprends votre propos, Alexandre, c'est ça ?
Non, de réappropriation du territoire, c'est-à-dire essayer de désengorger les grandes métropoles, réindustrialiser les zones rurales ou les zones périphériques, histoire de désengorger... ces grandes métropoles et inciter ainsi les usagers à utiliser les transports en commun qui seraient plus agréables et plus fonctionnels. Et mon deuxième point, c'était il y a des angles morts sur ces ZFE. Notamment, je vois que les véhicules GPL sont classés à critère 1, alors que certains ont plus de 30 ans. Et par exemple, des véhicules de collection ont le droit de rouler environ 6 ou 7 000 km dans les ZFE. Je pense que là, il y a des angles morts et des effets d'aubaine qui vont faire, en quelque sorte, monter le prix de l'occasion, puisqu'on sait que maintenant, je vois le véhicule électrique le plus vendu en France coûte déjà 23 ou 24 000 euros, c'est la Peugeot 208. Et je crois que ça va créer un effet d'aubaine aussi pour l'occasion, parce que les gens ne vont pas pouvoir pouvoir acheter des véhicules neufs et vont se reporter sur le marché de l'occasion aussi.
Merci beaucoup d'avoir contribué à notre conversation, Alexandre. Je vous laisse conclure l'un et l'autre, Pierre Chasseret, et puis Arnaud Robinet, le maire de Reims, conclura après vous.
Je réitère ma question à monsieur le maire de Reims, s'il pouvait me répondre en un mot. Est-ce qu'il trouve normal qu'on interdise de circuler des véhicules qui ont bénéficié d'un bonus écologique ?
Arnaud Robinet, maire de Reims, vous avez le mot de la fin, et puis on change de sujet après.
Écoutez, aujourd'hui, moi, ce que j'appelle le gouvernement à mettre les moyens sur la table, si véritablement c'est une... Je voudrais avoir votre réponse. Si c'est un engagement d'État et une priorité de santé publique, bien évidemment, laissons les collectivités gérer leurs zones à faible émission de façon pragmatique et en fonction de la spécificité de chaque territoire. Et pour répondre à la question de monsieur le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, aujourd'hui, si des voitures ne rentrent pas dans ces fameux critères en termes de pollution et de, je dirais, en termes notamment de concentration, de relâchage de concentration d'oxyde d'azote, oui, qu'elles soient interdites, ça me semble normal.
Merci, monsieur le maire Arnaud Robinet, maire Horizon de Reims. Merci, Pierre Chasseret, porte-parole et président de 40 millions d'automobilistes. Dans quelques instants, après une courte pause, nous changeons de sujet avec cette question. La chasse, troisième activité favorite des Français, doit-elle être mieux encadrée, voire interdite ? A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
En cette saison 2021-2022 de la chasse, l'Office français de la biodiversité recense 90 accidents, dont 8 mortels, 2 personnes tuées n'étaient pas chasseurs. C'est dû au tiers, selon un rapport du Sénat, au non-respect des règles élémentaires. Le débat est donc ouvert sur l'encadrement de la chasse. Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie, a dévoilé les pistes envisagées par le gouvernement pour toujours mieux encadrer cette pratique. L'une des plus favorites des Français, la troisième, avec plus d'un million de pratiquants. Nous en parlons avec Jackie Desbrosses, président de la Fédération régionale des chasseurs de la Marne. Où était justement la secrétaire d'État Bérangère Couillard aujourd'hui ? Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on l'a entendu tout à l'heure pendant le journal, une interdiction de la chasse le dimanche, c'est possible, ça n'est pas tabou, dit-elle, la secrétaire d'État, qui rapporte une conversation avec le président Emmanuel Macron. Chasser un seul jour sur deux le week-end, ça vous paraît un bon compromis, ça, Jackie Desbrosses ?
Non, pas du tout. Ça, c'est... Alors, c'est une piste de discussion, bien sûr. Alors, en plus, on est en train de remettre un débat qui est bien sûr actuel, hein, mais qui est déjà une pratique qui existe dans un certain nombre de dispositions, notamment dans les forêts périurbaines, dans un certain nombre de forêts domaniales, etc. Donc ces dispositions existent déjà. Par contre, prendre une mesure généralisée sur l'interdiction de la chasse le dimanche, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas adhérer à cette idée-là, puisque il y a beaucoup d'endroits au niveau du territoire national où cette pratique est totalement possible.
Alors, il y a un autre point qui est soulevé ces derniers jours, c'est celui de l'alcoolémie. Ça a été évoqué par la secrétaire d'État Bérangère Couillard, mais aussi dans le dernier rapport du Sénat. L'alcoolémie serait à l'origine de 9% des blessures dans les accidents de chasse. Hein. Alors, oui, la Fédération des chasseurs se sent stigmatisée par ce débat.
Oui, alors c'est un problème de présentation, je pense, qui a été mal fait, enfin mal fait, ou qui a été un peu interprété, on va dire. Par contre, les fédérations ne sont pas du tout hostiles à cette mesure, qui est une mesure de bon sens.
Alors la mesure, pour qu'on le dise aux auditeurs, ça serait de fait d'instaurer un délit d'alcoolémie, donc des contrôles, comme ce qui se fait sur nos routes.
Exactement. Voilà. C'est la même chose. Donc, alors,
donc maintenant... avant d'aller chasser, avant de charger son fusil, il faudra avoir soufflé dans le ballon.
Oui, alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est comme dans votre voiture, vous n'avez pas de dispositif automatique de contrôle de votre taux d'alcoolémie avant de démarrer votre véhicule, sauf pour les véhicules professionnels du type autobus ou des choses de ce type-là. Là, c'est de pouvoir institutionnaliser un contrôle sur un chasseur qui est en action de chasse avec une arme, ou les agents chargés de la police de la chasse, hein, quel que soit leur corps d'origine, pourraient venir contrôler ce point, en plus des contrôles habituels. Et dans le cas où il y aurait une alcoolémie constatée trop élevée, pourrait effectivement verbaliser.
Alors, ma question pour terminer, Jackie Desbrosses, président de la Fédération régionale des chasseurs de la Marne, est beaucoup plus générale. Est-ce que, selon vous, ce débat sur l'encadrement de la chasse a lieu d'être ? Est-ce la chasse est une pratique dangereuse ?
Non, pas du tout. On est en train de la stigmatiser aujourd'hui. Mais par rapport à d'autres pratiques de la vie, alors c'est aussi interprété quand on compare avec d'autres activités. Mais il y a un moment, il faut aussi le dire, ça fait partie des activités rurales historiques. Et aujourd'hui, si on l'encadre bien, c'est ce qu'on a montré aujourd'hui à la ministre pendant cette visite. On a montré toutes les formations, tout ce qu'on dispensait, les références sécurité. On voit d'une manière très claire que les chiffres sont à la baisse partout. Bien sûr, il y a eu une annonce faite aujourd'hui pendant la visite de tendre vers le zéro accident, mais c'est clair. Mais est-ce qu'on peut aussi revendiquer un zéro accident dans toutes les activités humaines ? Là aussi, ce sont une ambition, un objectif qu'on peut évidemment partager. Mais de là à dire que l'activité de la chasse est une activité par nature dangereuse, c'est complètement détourner le sens qu'on veut donner à la formation, aux moyens qu'on met en œuvre et aux éléments qui sont aujourd'hui tout à fait tangibles dans les résultats, hein, pour effectivement tendre vers le zéro accident.
Merci beaucoup, Jackie Desbrosses. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération régionale des chasseurs de la Marne. Toutes nos excuses à Serge qui voulait réagir, qu'on n'a pas le temps d'entendre. Serge qui nous appelle de Franche-Comté et qui, lui, n'est pas du tout contre la chasse, mais pense qu'il faudrait plus de règles, plus de contrôles. Il propose notamment un rendez-vous médical à partir d'un certain âge. N'hésitez pas à nous rappeler ces prochains jours pour intervenir dans Europe Soir au 39-21. Dans quelques instants, un point sur l'actualité avec Hélène Zélani. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé vous informe sur Europe 1.